Évangile de Marc, chapitre 12, verset 28. Un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha donc de lui et lui demanda : quel est le plus important de tous les commandements ? Jésus lui répondit : voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Le maître de la loi dit alors à Jésus : très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Chacun doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force. Et il doit aimer son prochain comme lui-même. Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux. Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente et lui dit alors : tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Après cela, personne n'osait plus lui poser de questions.
Quand on isole un passage, comme nous le faisons à chaque fois, il est toujours souvent intéressant de lire un petit peu avant et un petit peu après pour voir par quoi est encadré le texte qu'on a isolé, peut-être de manière un peu artificielle. Je ne vous forcerai pas à lire beaucoup, mais si vous remontez un tout petit peu avant, dans les versets qui précèdent les nôtres, on assiste à une controverse théologique au sujet de la résurrection. Sujet important, s'il en est, pas du genre à donner une conversation apaisée, sans enjeu, entre concurrents en tout cas, et sur le ton de la blague. Les versets qui précèdent les nôtres mettent face à face des spécialistes, les Sadducéens liés au temple, pour les quelques versets un peu plus haut, et qui interviennent avec l'idée de faire valoir leurs arguments, de les défendre bec et ongles, s'il le faut, à défaut de pouvoir les imposer, parce qu'en face d'eux, ils ont trouvé à qui parler. Ils les défendent, ces arguments, comme on défend un trésor ou un capital, quelque chose qu'on ne doit pas perdre. Et ils le font avec les arrière-pensées de ceux qui vous attendent au tournant. Si vous relisez ces lignes qui précèdent, vous verrez cette atmosphère, cette tonalité-là de conversation. Dans le texte d'aujourd'hui, que nous venons de réentendre, au contraire, autre atmosphère, autre ambiance, on dirait, autre salle, autre ambiance. Un scribe apparaît, c'est aussi un spécialiste, et comment ? Avec son statut de bon connaisseur des textes juridiques et religieux de son époque, il a un bon bagage. Et il est face à Jésus, donc deux héritiers d'une tradition qui, si on la mettait par écrit, en assez grosses lettres, couvrirait tous nos pans de mur. Et dans ce texte-là, il vous résume tout ça en deux phrases seulement. Le scribe connaît les textes religieux, juridiques de sa tradition dans les détails parce que c'est son devoir d'éclairer ses contemporains sur le sens de leur vie. C'est peut-être ce qui le distingue déjà, cet homme venu seul et pas en meute ou en bande comme les précédents pour coincer Jésus, il vient tout seul parler à Jésus d'égal à égal. Vous voyez la différence de tonalité. Peut-être que contrairement au Sadducéen dont je parlais plus tôt, le scribe semble avoir compris la différence entre transmettre quelque chose et inculquer. Autrefois, les prophéties étaient l'objet de visions. Les prophètes étaient des visionnaires. Voilà. Ils avaient une vision et ils vous disaient ce qu'ils avaient vu. Et il fallait les croire. Le temps a passé et désormais la parole qu'on estime venir de Dieu est plutôt un document qu'on lit et qu'on relit inlassablement. Malgré la fixité du texte, il faut lire et relire comme si on n'était pas sûr d'avoir compris toute chose dans ces quelques phrases, ou bien compris. Relire. Dieu a évolué en changeant de support. Il est devenu plus fiable et ce scribe sait bien tout le parti qu'on peut tirer d'une parole écrite, simple et claire, une parole qui dit l'essentiel. D'ailleurs, son titre de scribe dit tout son souci de transmettre un Dieu écrit, un Dieu qu'on lit, qu'on relit, qu'on déchiffre. On ne discutait pas les visions. Elles venaient d'en haut, s'imposaient avec la force de l'évidence et l'autorité du miracle. Elles vous tombaient dessus, sur celui qui avait la vision et sur ceux qui en entendaient le récit. C'était comme ça. Désormais, avec un Dieu qui passe par l'écrit, il faut dire « je », il faut y mettre du sien, risquer l'interprétation d'une parole pourtant simple et claire, mais riche d'applications sans nombre et sur laquelle il faut constamment revenir. Des interprétations sans nombre et parfois contradictoires. Même les écrits de la Bible contiennent ce type de contradictions, de visions différentes sur une même chose. Le scribe qui s'adresse à Jésus ce jour-là n'est pas un de ces spécialistes imbus de son savoir ou de son érudition et qui cherche à coincer Jésus. Il est sincère, lui, il est droit. Il pose une question sans essayer de faire un croche-pied, sans arrière-pensée. Il traite Jésus d'égal à égal pour parler avec lui de l'essentiel qui, on le découvre après, tient au fond en deux phrases. Quel est le premier de tous les commandements ? Comme si deux experts se réunissaient un peu au sommet pour parler des choses qui importent le plus au monde pendant que les autres s'amusent. Si nous venons ici, c'est bien pour essayer, nous aussi, de relire ce Dieu qui s'est laissé écrire avec nos mots insuffisants, enfermés dans une époque, dans une culture, et qu'il faut déchiffrer, ramener près de nous et utiliser au mieux. Nous venons ici pour nous demander ce qui est l'essentiel. Savoir comment discerner un chemin praticable pour toutes les routes qui se présentent à nous, c'est pas facile de choisir. C'est bien pour répondre à ce genre de questions que nous nous rassemblons ici. Et nous sommes, au fond, comme ce scribe. Nous sommes tous des scribes. Nous sommes héritiers d'une longue tradition qui, entre nos mains, est comme une lampe qui éclaire notre route et qui, pour nous servir, a besoin d'être légère dans notre sac et efficace, comme deux phrases. Dans le dédale des systèmes ou des voies spirituelles, beaucoup se demandent comment s'orienter dans nos églises et aussi au dehors. Et c'est de plus en plus visible. Ils le disent à travers toutes sortes de sondages d'opinion. Et s'il est vrai que nous vivons nous aussi dans un supermarché où tout ce qui se trouve dans les rayons est supposé essentiel, immanquable, quels critères choisir pour se diriger dans ce trop-plein de marchandises ? Quand l'essentiel émerge au milieu du reste, pas de mérite particulier à le trouver puisqu'il émerge tout seul comme un grand. Mais s'il est masqué par le flux de tout ce qui se présente comme spirituellement valeureux, de même valeur, comment faire, hein ? Vous savez, quand tout se vaut, rien ne vaut, comme tout est au même niveau et on ne repère plus ce qui doit émerger. Quels critères utiliser pour faire le tri ? Et puisque nous faisons partie d'une tradition, nous aussi, particulière, avec son histoire bien à elle, qui nous propose déjà beaucoup de choses, que privilégier dans la multiplicité des croyances, des pratiques, dans le fatras qui est le nôtre ? Où est l'essentiel ? C'est pour cela que la question du scribe à Jésus est aussi valable pour ceux qui sont engagés que pour tous ceux qui sont simplement en recherche. C'est la même question. Pour tout le monde. Où est l'essentiel? Que privilégier dans ce qui se présente comme important? Jésus résume la volonté de Dieu au travers du commandement d'amour. Ce n'est pas une invention. Jésus n'innove pas. L'amour de Dieu, l'amour du prochain sont déjà présents dans la Torah. Ils sont simplement allés les rechercher au bon endroit. La tradition des prophètes affirme fortement, d'ailleurs, que cela vaut bien mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Mais rien de nouveau là-dedans. Ils sont juste allés chercher au bon endroit. L'apport de Jésus consiste simplement à lier ces deux choses, ces deux invitations, à en faire des commandements et surtout les présenter comme l'essentiel. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. On remarque que sur le terrain d'entente entre Jésus et le scribe, on trouve assez peu de religieux finalement. On trouve surtout quelque chose d'éthique. Une indication à habiter le monde d'une certaine manière, pas le considérer comme un objet et se contenter de la vision qu'on en a, mais y agir d'une certaine manière. Ce n'est pas dans le domaine des pratiques religieuses pures, ni dans les affirmations dogmatiques quelles qu'elles soient et dont nous avons de toute façon besoin, que se trouve cet essentiel. Ce n'est pas là, en tout cas, que Jésus et le scribe les trouvent. Si eux ne les trouvent pas à cet endroit-là, allons-nous les contredire? C'est plutôt dans les choix parfois difficiles du quotidien que cet essentiel doit être mobilisé autant que possible. La vraie religion, pour ces deux-là, au moins, et ces deux-là comptent pour nous, c'est cet amour fraternel démontré. Jésus reprend donc à son compte deux commandements parmi tant d'autres de la loi. On dit qu'il y en avait 613, on peut mémoriser deux phrases, mais 613 commandements sans se tromper, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ne vous faites aucun souci, certains l'ont fait déjà. Et ils pourraient vous les réciter, les 613 du numéro 1 au 613, sans se tromper. Mais ce n'est pas l'objet. Et faut-il occuper ses neurones à ce genre de mémorisation? Dans la transcription du même texte que Matthieu fait, si vous lisez le parallèle, cet échange entre Jésus et ce scribe, cet échange est décrit un peu différemment. Jésus ajoute que le second terme, l'amour du prochain, est semblable au premier. Il parle d'égalité entre les deux propositions. C'est plus clair encore que chez Marc. Mais si Jésus ramène toute la volonté de Dieu à l'amour, comment peut-il dire qu'il s'agit de commandement? Que serait un amour qui se manifeste sur ordonnance? Est-ce seulement pensable? Est-ce qu'on peut commander les sentiments de quelqu'un? Parce que nous sommes effectivement piégés par les différents sens du mot amour, ceux que nous utilisons couramment et qui ne recouvrent sans doute pas ce dont il est question ici. Au sens initial, l'amour, c'est un mouvement instinctif. Je ne sais plus de quel dictionnaire je le sors, mais je peux vous assurer que c'est vrai, ce n'est pas Wikipédia pour une fois. En relation avec nos sympathies et nos antipathies, j'ai oublié la fin de la définition. Un mouvement, quelque chose d'instinctif et qui s'exprime, une préférence qu'on sent presque dans ses tripes, alors même qu'elle n'est pas passée ni par notre tête, ni par notre bouche. Jésus avait lui aussi ses préférences, on le sait, mais lorsqu'il parle d'amour, il indique autre chose qu'une espèce de pulsion. Il évoque notre acceptation de la vie aux frontières de l'universel quand nous reconnaissons en tout homme l'image de Dieu. Quand nous sommes capables de faire ça, alors nous sommes dans l'amour. C'est peut-être une impulsion, mais il y a aussi certainement pas mal de travail pour y arriver. Dire que l'amour du prochain compte autant que l'amour de Dieu et qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, c'est décisif. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ces deux phrases sont déterrées dans des lois déjà existantes, encore une fois, aucune nouveauté absolue. Mais les articuler comme il le fait, et dire qu'au fond, il n'y a pas de choses plus importantes que ces deux-là, c'est peut-être la dernière touche qu'attendaient ces commandements prêts depuis longtemps. Les prophètes d'Israël ont déjà dit ces choses-là avant Jésus, mais Jésus innove parce que le commandement mosaïque demande d'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et c'est Jésus qui ajoute de toute sa pensée ou de toute son intelligence. C'est ça, peut-être, la nouveauté. Jésus réclame clairement de tous une intelligence au service de la compréhension de l'Écriture. L'intelligence et la foi ne se contredisent pas, comme on l'a souvent enseigné, hélas. Elles doivent céder mutuellement, et s'apostrophe, hein, céder. Jésus va plus loin en prônant l'amour comme manière de connaître et de servir, et en sollicitant notre intelligence pour sonder personnellement les Écritures et faire constamment l'aller-retour entre l'un et l'autre. C'est dans ces deux lieux-là que tout se joue. Jésus dit sans embâche que la volonté de Dieu ne se réduit jamais à une doctrine ou à une morale. Contrairement à ce qu'on entend souvent, Jésus affirme qu'il n'y a aucune recette, alors qu'on beaucoup attendent de lui ce genre de choses. Aucun dogme, aucune pratique privilégiée pour aller vers Dieu, pour l'honorer et accomplir sa volonté. Ça peut être vu comme une perte pour ceux qui se sentaient détenteurs d'un système jugé parfait pour y accéder. Mais pour tous ceux qui cherchent dans le flou, c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes tous en train de chercher de la même manière. La priorité absolue de l'amour rend chacun complètement libre et complètement responsable. Jésus, en disant les choses, en les présentant comme il le fait, ne nie pas le bien fondé ou l'utilité des religions, des voies spirituelles. Il est l'héritier de l'une d'entre elles et il ne la renie pas. Il n'a rien contre les traditions, les différentes institutions qui les font vivre, ce n'est pas son sujet. Mais il dit clairement leur caractère second par rapport au programme qu'est le royaume, c'est ce qu'il va appeler, lui, le royaume de Dieu. Les premières nous portent, mais le second exige notre engagement. Ça n'a pas la même valeur, ni la même vocation. Les holocaustes, les sacrifices, les sacrements, les pratiques cultuelles restent nécessaires. Elles disent, avec des mots et des gestes simples, ce que nous vivons. Nous en avons donc besoin, pourvu que nous n'en fassions pas des distributeurs ou des télécommandes ou des moyens par lesquels nous mettons Dieu à notre disposition. C'est quand nous commençons à faire cela qu'ils outrepassent leurs droits. À travers le temps, le dialogue entre Jésus et ce scribe, auquel nous serions bien inspirés de ressembler, rappelle inlassablement l'essentiel de l'Évangile, mais un essentiel qui n'est jamais une formule, un dogme, une confession de foi ou une chapelle, mais bien, plutôt, une manière d'être et de vivre. Rien n'est codé ni définitivement gravé dans le marbre. Qui sait cela, ajoute Jésus, est proche du royaume de Dieu. Il faut peut-être s'imaginer les choses comme une conversation. La proposition du royaume vient de nous être faite et notre interlocuteur attend notre réponse. Nous ne pouvons pas nous contenter de rester assis en prenant des notes, en étant simplement animé du seul souci de ne rien perdre. Il faut encore lever la main pour prendre la parole et poursuivre la conversation. Pour nous qui sommes, comme ce scribe, passionnés d'essentiel, les déchiffreurs tenaces d'un Dieu qui s'est laissé coucher sur le papier parce qu'il le voulait. La bonne manière d'être visionnaire, à défaut d'être des voyants, est sans doute d'entretenir avec le monde cette même conversation, où après une phrase lancée, une réponse est attendue. C'est mieux qu'une doctrine assénée qui n'attend pas de retour. Conversation où chaque interlocuteur est un prochain colocataire à part entière ou à part égale d'un royaume encore en chantier. C'est comme ça qu'il faut se considérer. Notre conseil presbytéral examinera cette semaine des documents synodaux autour du thème « L'Église et nous ». Les églises de la région parisienne, mais aussi de la région ouest de notre Église protestante unie de France, ont répondu au printemps dernier à un grand sondage sur, pour faire court, le rapport que nous entretenons avec notre Église, la manière dont nous nous y engageons, etc. Vous avez d'ailleurs été un certain nombre, ici même, à y répondre. Et les résultats de ce sondage sont la matière première, la matière principale, à travailler lors du prochain synode à Dourdan, du 15 au 17 novembre prochain. Voilà de quoi nous allons parler. Il y a évidemment quelques enseignements importants à retirer sur les membres actuels de nos églises. Ces sondages qui ont été dépouillés, interprétés, nous disent un certain nombre de choses. Toutes les choses qui nous sont dites ne nous surprennent pas. On peut apprendre ce que sont, par exemple, les réguliers, les occasionnels et les éloignés. Peut-être que nous sommes passés par ces trois phases-là, d'ailleurs, avec des mouvements divers au cours de notre engagement, notre vie d'Église, d'ailleurs. Mais nous savons ce que ça veut dire. Mais il y a aussi une nouvelle catégorie émergente, celle qu'on appelle les spirituels, faute de précision. Ce n'est pas vraiment une définition, c'est un nouvel ensemble, un grand fourre-tout, un sac dans lequel entrent des personnes intéressées par la spiritualité sans arrière-plan protestant ni aucun arrière-plan d'église ou de vie d'église ou d'engagement religieux, quel qu'il soit, mais pourtant animées d'une recherche sincère et qui se trouvent dans la proximité de nos églises. Quelle conversation allons-nous engager avec eux? C'est toute la question que posera ce synode, et c'est la question que nos églises devront se poser chacune de leur côté, avec leur sociologie, leurs enjeux, leurs besoins, de s'ouvrir, de prendre soin de ceux qui sont déjà là, et de garder la porte ouverte pour ceux qui cherchent. C'est vis-à-vis de ceux-là, ces spirituels, qu'il faudra nous demander, comme nous y invite notre scribe aujourd'hui, où se trouve l'essentiel, le truc qu'on peut résumer en deux phrases peut-être, ou cet essentiel facile à dire qui nous permettra de nous présenter ici, dans ce lieu-là, c'est à cela que nous tenons, qui prendra peut-être plus que deux phrases, mais qui ne couvrira pas des pans du mur. Ils n'auront pas la patience d'attendre. Comment leur essentiel, parce qu'ils en ont un, même s'ils le cherchent et qu'ils souhaitent le définir, comment leur essentiel pourra rejoindre le nôtre? Et si on fait le pari que ces deux visions de l'essentiel peuvent se rejoindre, se parler, pourquoi pas? Saurons-nous ouvrir nos portes à d'autres formes de la vie de l'esprit pour des gens qui n'ont pas appris à le faire en étant comprimés, si vous voulez, dans le moule qu'est chaque tradition religieuse, qui viennent de tout à fait ailleurs, qui ont leur discipline, leur manière de faire, mais qui ne sera sans doute pas la nôtre. Pour que nos églises soient une sorte de laboratoire serein, d'une foi toujours en recherche. C'est cela qu'elles sont. Si elles ne sont plus, et il ne faut pas s'en désoler, les endroits où on vient se faire inculquer, mais où l'on vient recevoir quelque chose par héritage et s'en faire soi-même l'interprète, comme une partition qu'on vous confie et que vous ne jouerez pas comme quelqu'un d'autre, qui sera votre interprétation à vous. C'est la question que nous pose ce sondage récent, et le texte du jour, je crois, nous donne quelques éléments pour y répondre. Amen.